OK, on est de retour dans l'avant-match encore pour quelques minutes avant la fin de l'émission de ce soir. Et vous êtes très gentil quand vous me croisez, hein, puis vous dites « Hey, c'est vraiment bon ton émission, j'aime ça ». Savez-vous pourquoi c'est bon? Parce que j'ai affaire avec des experts. Je suis capable, dans mon quotidien, de jaser avec des gens qui s'y connaissent vraiment dans leur domaine respectif, et c'est la beauté de ma job. J'adore les discussions que j'ai chaque jour avec mes intervenants. Et mon prochain invité est un expert de sport et business. C'est le réputé Real Lalonde, à qui j'ai le bonheur de parler quelques fois par année. Vous pouvez le suivre sur Twitter, hein? Real Lalonde. Vous allez faire comme moi, apprendre des choses quasiment au quotidien. Il n'y a pas beaucoup de journées ou quand Ray fait une publication, je me dis pas « Ah ouais, tabarouette, c'est vrai, j'avais pas vu ça de même » ou « Je savais pas que tel ou tel événement arrivait ». La semaine dernière, je vous donne un exemple comme ça, avant qu'on aille plus loin. La semaine dernière, Ray a parlé du fameux match très attendu entre Penn State et Michigan. Ben là, je me suis dit « Ah oui, c'est vrai ». Puis là, j'ai lu un peu sur cette tradition-là, puis j'ai regardé le match, puis c'est comme ça. Ray Lalonde, bonsoir.
Bonsoir, Dan.
C'était une belle intro quand même, hein?
Ah, t'es généreux, puis t'es gentil, puis t'en beurre épais.
Non, j'en beurre pas épais. Je pense sincèrement ce que je viens de dire. Ray, c'est le début de la saison dans la NBA. On était là, toi et moi, au Peps, il y a deux semaines, pour voir le match intra-équipe entre les Blancs et les Noirs pour un match qui finissait un camp d'entraînement présenté ici à Québec. Ça a été le bonheur. 3336 spectateurs qui étaient là. Et l'équipe championne en titre débute sa saison ce soir. Par contre, je pense qu'en termes basketball, on parlera du côté business ensuite, mais en termes basketball, il va falloir que nos attentes soient moins grandes cette année.
Ouais, tu sais, on a été tellement privilégiés d'accueillir les Raptors à Québec, et Québec a livré. Alors, là-dessus, pour l'avoir vu de mes yeux, je suis allé là deux fois dans la même semaine, là, puis dans les deux occasions, j'ai été particulièrement impressionné par le professionnalisme de l'Université Laval et aussi par l'engagement émotif des gens. Ça recréait en quelque sorte le Scotiabank Arena à Toronto,
ouais.
Le domicile des Raptors,
ouais.
Les couleurs, l'ambiance, les cheerleaders, la mascotte. Et évidemment, les joueurs aussi ont été généreux d'en redonner aux partisans. Alors, ça, c'était le début. Mais là, ce soir, ça commence pour vrai. Et surtout, pour une première fois en 26 ans là, au Canada, là, on a une cérémonie d'avant-match pour honorer un champion d'origine canadienne. Les Raptors vont dévoiler la bannière, vont recevoir leur bague de championnat. Le trophée va être là, le commissaire va être là. Ça va être extraordinaire. Ça fait tellement d'années. Et honnêtement, là, c'est la cerise sur le gâteau du championnat du 13 juin dernier pour les Raptors.
OK. On dit que le Canadien de Montréal au hockey, les Yankees de New York au baseball, puis les Celtics au basket, puis les Lakers, puis les Pats depuis l'arrivée de Belichick et Brady. Tu vas chercher de nouveaux partisans avec des championnats. Est-ce que c'est exactement ce qu'on vient de vivre avec les Raptors et leur conquête de juin dernier?
Oui, normalement, une équipe qui gagne un championnat là, en a pour à peu près 5 ans là, à vaguer sur le succès, sur le momentum et sur l'opportunité commerciale.
Okay.
Des renouvellements de billets, des renouvellements de loges, des ventes, de nouveaux produits, des nouvelles ententes commerciales avec des commanditaires. Dan, on peut compter ça, là. Et puis, tu le remarques et tu le constates. Tout le monde veut s'associer à un champion. OK. Mais là, ceci étant, il faut que tu livres quand même. Les Raptors, cette année, vont avoir une bonne équipe. C'est peu probable qu'ils gagnent le championnat, mais ils vont faire les séries,
ouais.
Puis ils sont très compétitifs. Alors, ce qui va arriver là pour eux autres, c'est qu'on va commencer à constater immédiatement l'intérêt, la curiosité renouvelée des partisans. Tout le monde ne sera pas au rendez-vous comme au printemps dernier. C'est normal, on n'est pas en série. Mais je pense que l'opportunité commerciale, cette espèce d'empreinte des Raptors au Canada a agrandi, est devenue encore plus gigantesque. Et on le remarque aussi chez les jeunes qui jouent au basket dans les rues. Et à Montréal, on a annoncé récemment qu'on va construire des terrains de basket dans des parcs existants. On remarque les sports-études qui augmentent au Québec seulement, les programmes concentration basketball. Et aussi, on remarque la participation générale au Canada des coachs et des jeunes qui jouent au basket. Et tout est à la hausse. Mais ça, c'est pas arrivé juste depuis le printemps dernier. C'est arrivé depuis les 4-5 dernières années,
okay.
Où on a regardé attentivement comment le basketball est le sport préféré des nouveaux immigrants qui arrivent au Canada. Et dans une région comme Toronto, par exemple, ça représente des milliers de gens à chaque année qui regardent pas le hockey, qui regardent pas le soccer, mais qui se tournent tout de suite vers le basketball. Alors, les Raptors ont été des ambassadeurs extraordinaires. Puis c'est avec moi, là, toutes les saisons de sport qui commencent, Dan, là, je m'excite. Le début de la saison de la NFL, de la NHL, de la NBA, les séries mondiales du baseball ce soir aussi, c'est extraordinaire le contenu sportif de haute qualité. Puis manquez pas la cérémonie des Raptors avant le match.
OK. Pourquoi la NBA joue... La NBA avec la LNH, là, c'est à peu près le même nombre de matchs, à peu près les mêmes mois, à peu près les mêmes séries. Pourquoi on débute quand même presque 3 semaines après la LNH?
C'est une bonne question. Et la réponse est une combinaison de quelques facteurs. D'abord, la NBA ne veut pas commencer trop près du début de saison de la NFL. Et il y a une certaine séparation de ça. La NFL commence début septembre, fait du travail dans ce coin-là, puis la NBA, c'est toujours un mois et demi après.
Okay.
Deuxièmement, il y a eu à un moment donné, un moment où le hockey, le basketball commençait à presque une semaine d'intervalle. Cette année, la NBA a retardé sa saison d'une semaine et a poussé sa saison un peu plus loin en juin prochain.
Okay.
Alors, tu sais, la NBA a la flexibilité parce que c'est un sport national, international, mais qui se joue en dedans. Ils ont la capacité de pouvoir jouer quand il fait très chaud. C'est pas comme une glace en finale de Coupe Stanley dans un amphithéâtre comme le T-Mobile Arena à Vegas où c'est difficile de garder tout ça congelé puis dans les bonnes conditions parce qu'il fait 42 degrés dehors.
Ouais.
Alors, le basketball a la flexibilité de pouvoir choisir puis se positionner correctement. Puis il y a deux grands moments, le début de la saison, puis évidemment les matchs, les 5 matchs qui ont lieu le jour de Noël même, qui est leur journée,
ouais,
là, vraiment
le
leur
25,
propriété
ouais,
intègre,
ouais,
le 25 décembre,
ouais,
et puis évidemment les séries. Alors, ils jonglent avec ça d'année en année. La NBA a beaucoup de travail à faire au niveau mondial, aime se promener en Europe, en Asie puis en Afrique pour faire des matchs pré-saison et vendre son produit. Et le mi-octobre, fin octobre, c'est toujours le bon moment.
Parlons-en des matchs pré-saison. La NBA est allée en Chine. Et rappelle à nos auditeurs ou explique à nos auditeurs qui ont peut-être manqué cet épisode à quel point on s'est chicané.
Ben, c'est surtout le risque d'abord d'utiliser les médias sociaux de façon un petit peu moins disciplinée ou rigoureuse. Alors, un directeur gérant d'une équipe, les Rockets de Houston, le gars en particulier, c'est Daryl Morey, a décidé qu'elle allait envoyer un petit tweet anodin pour soutenir la cause des protestants des manifestations à Hong Kong. Hong Kong est sous l'emprise de la Chine, mais à Hong Kong, là, autrefois, c'était un peu séparé. On vivait avec une mentalité plutôt nord-américaine, mais là, c'est sous l'emprise de la domination du communisme en Chine. Alors, ça manifeste là-bas, et c'est un peu ce qu'on voit aussi en Espagne, avec les Catalans qui se chicanent un peu avec le reste de l'Espagne pour faire prévaloir leurs droits. Alors, lui envoie un tweet pour protester et soutenir la cause des gens pour les droits de l'homme. Et soudainement, le gouvernement chinois réagit. Et soudainement, la NBA doit faire un peu de recul, un peu de marche arrière pour corriger la situation. Et c'était tout arrivé pendant que deux équipes de la NBA étaient en Chine, à Pékin et à Shanghai, pour jouer des matchs. Alors, les choses se sont compliquées. Les Chinois ont mis beaucoup de pression sur les Américains et la NBA pour s'excuser. Et ont même insisté pour que M. Morey soit congédié de son poste avec les Rockets.
OK.
Bon, alors c'est devenu compliqué au même moment. On a failli canceller les matchs. On a enlevé toute la publicité dans les villes en Chine sur la NBA. Tu sais, c'est pas anodin, là.
Non.
Parce qu'en Chine, il y a 500 millions de consommateurs de NBA. C'est le sport numéro un en Chine. Et pourtant, la NBA n'est même pas le sport numéro un aux États-Unis. C'est pour te dire comment la NBA a réussi à pénétrer ce marché-là, qui leur vaut à peu près $1 milliard en revenus bruts annuellement.
Okay.
Alors, il y a un gros enjeu économique, mais il y a un enjeu sociopolitique aussi. Et la NBA s'est retrouvée avec Adam Silver qui a décidé de défendre la liberté d'expression de son directeur gérant et de ses joueurs et de ne pas s'excuser envers le gouvernement de la Chine. Mais oui, il s'est excusé auprès des fans de la NBA en Chine parce qu'il trouvait que c'était injuste de leur enlever le droit de se divertir avec le produit NBA qu'ils aiment autant. Mais il y a quand même un peu... une grosse tempête qui s'est déroulée pendant une dizaine de jours.
Oui.
Les choses se sont calmées maintenant, là, mais il y a des choses qui vont devoir changer, à savoir si la NBA va peut-être moins commercialiser sa marque de commerce en Chine à l'avantage de d'autres pays, mais au détriment des propriétaires qui aiment bien collecter le milliard de dollars en revenus.
OK. Un mot avant de te laisser sur Bianca Andreescu. Elle est 4e au monde depuis le classement publié hier. C'est le plus haut sommet jamais atteint par une joueuse du Canada. Et on a vu la semaine dernière Rolex s'associer avec Bianca. Est-ce que c'est la première véritable conséquence d'une victoire au US Open et sûrement pas la dernière, hein?
Oui, t'as raison. Tu sais, Rolex est avec le tennis depuis 1978. Rolex paye Roger Federer 8 millions de dollars par année. C'est sûr que Andreescu ne méritera pas autant d'argent. Non. Mais quand tu combines Rolex avec Nike, BMW, Copper Branch, les restaurants végétariens, puis Head, les raquettes de tennis, il commence à avoir des noms pas mal prestigieux dans son portfolio commanditaire.
Oui. Oui.
Et elle le mérite. Parce que, tu sais, gagner le championnat du US Open, être quatrième au monde, envisager à son jeune âge d'atteindre le numéro un au monde et de gagner d'autres tournois majeurs, ben les gens savent que c'est le temps de rentrer avec elle et de s'associer à elle. Un, ça coûte moins cher au départ parce qu'elle n'est pas tout à fait... elle n'est pas Serena Williams encore.
Non. T'sais?
Donc, ça coûte moins cher. Puis deuxièmement, il y a tellement d'opportunités parce qu'elle connecte bien avec une jeune génération de consommateurs de tennis. Puis Rolex, même si c'est une montre de haut niveau, oui, très, très riche, qui, oui, est un peu hors de portée de la plupart des gens, ça leur permet de se rajeunir un peu et de se connecter avec des athlètes plus jeunes,
ah, okay,
et de possiblement attirer des jeunes consommateurs avec leurs produits.
Intéressant. Un gros merci, Ray. Bonne soirée à toi.
Salut, Dan. Merci à toi.
Salut bien.